C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnés.
L'hiver arrive. Ce n'est peut-être qu'un détail. Les températures baissent, les chauffages sont mis en marche, mais dans la rue, sur des cartons, dorment des gens qui ont touché le fond. Sans abri, sans famille, ils font partie de la foule. Impuissants, sans argent, ils attendent de la part du 115 de dormir au chaud jusqu'à demain.
Merci Vanessa pour ce petit poème en rapport avec la thématique de notre émission, la 13e émission des Boulonnais, Radio Boulon. Donc bienvenue à tous, bonjour Luc.
Bonjour Thomas, alors nous allons vous présenter le sommaire de l'émission.
Oui, donc premièrement nous allons évoquer l'équipe mobile de précarité.
En deuxième partie, le SAMU social avec l'équipe de rue et le foyer Blanc-Zipour.
En troisième partie, l'accueil de jour avec Juliette.
En quatrième partie, la banque alimentaire et les restos du cœur.
Et pour finir, on évoquera des événements en rapport avec les associations caritatives du Boulonnais. Voilà, donc tout de suite, on va partir tout de suite à la première chronique. Donc nous commençons avec la précarité, présentée par Yannick, Vanessa et Fatia, étudiantes infirmières.
Bonjour à tous, bonjour, bienvenue Yannick. Sur Les Boulons, l'émission des Boulonnais. Alors le MPP, l'équipe mobile de précarité, est né en décembre 2013 suite à une commande de l'ARS, l'Agence régionale de la santé. C'est un projet qui est médical, qui est hybride, c'est-à-dire éducation et soins, qui est situé, une équipe qui est située au centre hospitalier bâtiment Titanic, donc c'est à côté de l'hôpital général. Équipe avec deux infirmières rattachées chacune au CMP, centre médico-psychologique, parce qu'ils travaillent en partenariat avec ces structures, bien sûr, et avec un médecin responsable référent qui a écrit le projet, qui a l'initiative de ce projet, qui est le docteur Courtecuisse. Donc on va laisser Vanessa et Fatia leur poser plein de questions.
Donc nous sommes avec docteur Courtecuisse et mademoiselle Dorothée.
C'est bien ça.
Madame,
excusez-moi. Et Mia.
Mina.
Ah, décidément. Donc voilà, donc je voulais vous poser une question. La première question, c'est quel est votre rôle au sein de l'équipe de précarité?
Bon, merci de nous inviter. Bonjour au Boulon.
Bienvenue
donc
à vous.
Moi, mon rôle médical a été, comme le disait Madame Laroche, d'écrire l'histoire de cette équipe. Je tiens à souligner qu'elle s'est écrite avec le chef de service là, du service social, hein, Monsieur Gosselin, hein, et mes collègues cadres et médecins. Donc voilà, donc mon rôle, il est d'organiser le travail psychique auprès de ce public précaire. Donc c'est mettre en place tout un tas de réunions, se rendre disponible... animer le réseau précarité santé mentale qui a lieu 3-4 fois par an, hein, sur des thématiques telles la précarité, le déni des conduites addictives.
D'accord, donc quelle catégorie de personnes...
Attendez, on peut demander aussi
à Dorothée
justement sa fonction.
Oui.
Ah oui, bonjour à tous, je m'appelle Dorothée, donc je suis infirmière au sein de l'équipe Interface. Mon rôle au niveau de cette équipe, c'est de proposer des entretiens aux personnes en situation de précarité au niveau des différents foyers, alors que ce soit au niveau du centre d'hébergement à Marquise, au Denacre, à Blanzy, participer à la maraude, orienter plus ou moins vers une consultation médicale.
Excusez-moi, c'est quoi la maraude?
La maraude, ça l'équipe va vous expliquer plus pleinement après, mais lorsque vous faites le 115, une équipe intervient auprès de ces personnes qui sont en difficulté à la rue. Et je participe en proposant de rencontrer une première fois ces personnes avec l'espoir de les retrouver un peu plus tard, soit au sein du CMP, soit plus loin. C'est-à-dire, ça peut être au niveau des foyers, ça peut être différentes rencontres à la rue.
Ok, merci.
D'accord.
Mina.
Donc, bonjour à tous, moi c'est Mina, assistante sociale en salle de l'équipe mobile. Donc mon rôle se situe auprès de l'équipe mobile, donc je participe aux réunions où on évoque les situations de personnes qui sont suivies, où on évoque également des projets possibles. J'interviens également en soutien aux équipes éducatives au sein des centres d'hébergement, des foyers, etc. Et puis aussi un rôle de veille, on va dire, avec les collègues au sein du service social, dans un souci de continuité de prise en charge de la personne. Donc voilà, me renseigner si une personne dont on a évoqué la situation est hospitalisée au sein d'un autre service, et puis essayer de faire du lien et qu'il y ait une continuité dans la prise en charge.
D'accord.
Merci. Fatia, je crois que vous avez une petite question.
Pour Dr Courtecuisse. Est-ce que vous, déjà, vous pouvez nous expliquer ce qu'est la précarité ?
Alors, pour nous, bien sûr, quand on entend précarité, on parle souvent de précarité financière. Pour nous, on emploie ce terme davantage en termes de précarité de lien, dans la difficulté pour les gens à se lier, et notamment à se lier à des soignants, qui plus est, psychiatriques ou ayant une fonction psychologique. De soutien.
D'accord. Et quelle catégorie de personnes est touchée par la précarité le plus souvent ?
Alors, il y a tout type de personnes. Je pense que tout le monde peut être concerné un jour ou l'autre, malheureusement, au gré d'un divorce, de la perte d'un emploi, de la survenue d'un épisode dépressif. Mais on retrouve aussi des gens qui ont une maladie mentale et qui ne sont pas intégrés dans la dynamique de secteur, qui n'ont pas les ressources adéquates. Donc j'ai envie de dire, le public est très large. Il peut s'agir aussi de femmes en situation de violence conjugale, qui décident de quitter le foyer et de se protéger avec leurs enfants. Donc on est aussi en lien avec une partie de la population qui sont des enfants.
Excusez-moi, vous, Dorothée, vous agissez avec toutes ces personnes, pas simplement avec les personnes qui ont une pathologie mentale.
Non, tout à fait. On propose des entretiens et on voit plus ou moins l'orientation. C'est pour ça que parfois, ce sont plus des entretiens motivationnels. Et parfois, ça nécessite une prise en charge médicale. Donc là, il y a une orientation au niveau des CMP auprès d'un médecin psychiatre, et parfois même plus ou moins une hospitalisation si vraiment c'est le cas le requiert.
Ok, merci. Jannick, je pense. Petite question.
D'après les statistiques nationales, il y a une augmentation de la précarité chez les jeunes de 18-24 ans. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté? Puisque ça fait là, on est donc en 2017, on est à 4 ans d'existence quasiment pour le service de précarité à Boulogne-sur-Mer. Est-ce que vous avez constaté ça?
Oui, en effet, notamment pas mal de jeunes avec ayant des conduites addictives. Donc on a des liens avec le point accueil écoute jeunes, avec le club de prévention du chemin vert. Il y a aussi malheureusement des jeunes qui sortent du dispositif de protection de l'enfance. Donc voilà, on va dire pour un jeune entre 18 et 25 ans, la priorité reste l'insertion professionnelle. Et donc les dispositifs type garantie jeune qui incluent les jeunes dans une dynamique pédagogique et professionnelle, voilà, sont prioritaires. Mais on offre aussi d'accompagner ces jeunes en situation de souffrance psychique, puisque voilà, arriver à être à la rue ou au foyer, c'est pas tout le temps, c'est pas très heureux, quoi.
Merci. Vanessa ?
Voilà, oui, je voulais demander, est-ce que les gens qui interviennent, qui vont rencontrer les personnes en difficulté, est-ce que c'est des gens qui font du bénévolat ou c'est des gens qui sont payés justement par l'hôpital ou...
Au niveau de l'équipe Interface, nous faisons partie du centre hospitalier.
D'accord. Donc c'est pas du bénévolat. Alors les gens, quand on appelle le 115, qui se déplacent pour...
Ah là, c'est autre chose. Le 115 dépend d'un autre organisme.
D'accord.
Tout à fait.
Oui, allez-y.
Autant si on peut qualifier le travail de l'équipe mobile est un travail soignant, d'un autre côté, il s'agit d'un travail social. Donc on retrouve voilà, comme on va rencontrer tout à l'heure avec Tchèk et Juliette, hein, d'éducateurs, d'éducateurs de rue, d'assistantes sociales, hein, qui partagent les fonctions.
D'accord, et si vous voyez quelqu'un en détresse mentale dans un foyer, je veux dire, vous intervenez comment parce que s'il ne veut pas se faire hospitaliser, par exemple
Quels sont vos moyens?
Comment faites-vous?
Alors, c'est l'aller vers. Donc, c'est nous qui nous déplaçons, qui allons voir la personne, qui lui proposons différents soins. Et on a parfois besoin de retourner à plusieurs reprises, essayer d'argumenter et de montrer la nécessité à cette personne de se soigner.
D'accord.
Il faut y aller parfois avec tact. Et pour quelqu'un qui s'exclut lui-même d'une dynamique de soins, hein, c'est-à-dire qui se néglige, bon, bah, on y va tout doucement. Hein, et en général, il finit par nous laisser une place puisque c'est quand même soutenant. Hein.
D'accord.
Mais c'est un travail de longue haleine.
Il y a plus d'hommes touchés que de femmes, non? La précarité, je trouve que c'est beaucoup les hommes qui se retrouvent dans des foyers. Les femmes, elles sont orientées dans différents... Là, je pense il y a un château, je ne sais pas si vous connaissez le château de
Caen. Mais je crois que Vanessa, dans les statistiques, il y a 49% d'hommes nationales de 2000, les dernières, qui sont touchés par la précarité. 49%. Donc c'est plus important. Après, il y a les femmes, qui sont à 32%, et après, c'est les jeunes.
D'accord.
Et après, voilà, donc je pense que c'est vrai. C'est plus les hommes. Mais bon.
Ouais.
Fatia, une petite question.
Est-ce que le statut social influe sur la précarité?
Je n'ai pas forcément compris la question.
Ah, est-ce que le statut social de la personne a une influence sur
Est-ce que la condition qui soit plus ou moins aisée, c'est plus ça, oui.
Oui, c'est ça.
Oui, bien sûr. En même temps, pas que. Hein, il n'y a pas que l'argent qu'on a dans son portefeuille qui... voilà, qui rendent les gens heureux, voilà, c'est cette capacité, hein, à être en lien avec les uns les autres, hein, j'ai envie de dire, quelqu'un qui a aussi beaucoup d'argent peut se mettre en complet décalage avec une dynamique de soins, mais en même temps, c'est vrai que quelqu'un qui se retrouve à la rue, ayant négligé, hein, sa situation sociale, n'ayant peut-être même pas de couverture médicale, il se trouve qu'en parallèle, hein, on retrouve que c'est pas quelqu'un qui est si prompt à se soigner, quoi. Hein, donc, effectivement, il y a un parallèle, mais attention aux amalgames. Je pense qu'on est tous concernés, hein, par cette dynamique-là. Ça peut arriver très vite.
D'accord. Yannick ?
Et en tant qu'infirmier, comment psychiquement on se sort de ce que l'on vit tous les jours ? Parce que c'est un métier qui est très difficile d'être infirmier en précarité, il me semble quand même. Et comment, Dorothée, tu t'évades l'esprit ? Parce que je pense qu'il y a des situations qui doivent te toucher, parce qu'on est très touché par ce qu'on fait comme travail, bien évidemment, puisqu'on travaille avec des hommes et des femmes. Et comment toi, tu évades ton esprit ?
Alors déjà, je considère qu'il y a une véritable nécessité d'avoir des collègues avec qui communiquer, justement. Avoir différents points de vue au niveau de la prise en charge, ça me semble essentiel. Donc c'est quelque chose qui nous permet d'extérioriser les choses, de prendre du recul. Et sinon, je fais comme un peu tout le monde, je vais par les promenades, les randonnées, enfin... Voilà, extérioriser. On va vers ces personnes, on fait le maximum. On n'est pas dans la toute-puissance. On fait au mieux, avec nos moyens.
Moi, j'aurais voulu poser la même question au docteur Courtecuisse en tant que psychiatre. Comment vivez-vous votre fin de journée avec tous les patients que vous avez vus passer dans votre bureau?
On voit très bien. Je pense que c'est... Tout d'abord, si on est pleinement engagé, il y a aussi nos repères théoriques, hein, qui sont importants. Et dans le champ de la précarité, il y en a. Il faut écrire, partager, aussi ressentir que c'est un travail d'équipe. Je ne suis jamais tout seul. Même si des fois on est tout seul dans notre bureau, on n'est jamais tout seul. Il s'agit toujours d'un travail d'équipe. Et puis, il faut dire aussi que ce travail apporte aussi de la satisfaction, hein, quand... quand un patient renvoie un sourire et nous dit qu'il est soulagé et qu'il est en train de se reconstruire.
Merci, merci à vous tous. Tout de suite, nous allons écouter Claudio Capeo, Un homme debout.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir.
Si je m'endorme, réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le restaurez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes les galères, je reste un homme.
Merci bien pour la pièce, en ce moment c'est dur, je confesse. Enfin je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire, à part l'ivresse comme futur? Que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois j'ai qu'une envie, abandonner.
Si je m'endorme, réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous.
Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte.
Si je m'endorme, réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Si je m'endorme, réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
De retour dans l'émission des Boulonnais pour la prochaine rubrique avec le SAMU social, l'équipe de rue et le foyer Blanzipour.
Première petite question.
Bonjour à vous, Tchèque et Juliette, merci d'être parmi nous. Alors la précarité, c'est la santé, mais c'est aussi le social. Donc on va vous laisser parler de vos missions respectives dans vos structures de travail. Merci.
Juliette, vous pouvez commencer ? Expliquez un petit peu ce que vous faites.
Donc moi, je suis éducatrice spécialisée à l'accueil de jour, Place de Lorraine. Mon travail, c'est d'accueillir les personnes qui sont en situation de précarité, de leur offrir un repas, de leur offrir le café, qu'ils puissent prendre une douche, laver leur linge. Et puis à côté de ça, on fait des activités et on les aide aussi dans tout ce qui est administratif.
Ok, merci. Check.
Donc, check de l'équipe de rue. Nous, on s'occupe essentiellement de... Je fais la maraude. C'est la question que vous avez posée.
Voilà,
tout à l'heure.
La maraude. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est que la maraude.
La maraude, en fait, En fait, donc on est une équipe, il y a forcément un éducateur parmi nous. Moi, je ne le suis pas, je suis un moniteur non diplômé. Et donc la maraude, elle consiste à faire le tour du Boulonnais pour voir s'il y a des gens qui dorment à la rue.
D'accord.
Voilà.
En fait, c'est vous qu'on voit le soir avec marqué SAMU social.
Exactement. Passez,
d'accord. Ouais. Ok.
Donc, si on rencontre quelqu'un en situation de précarité, comment on peut prendre contact avec vous pour
Donc, c'est via le 115.
D'accord. Sinon, vous recevez combien de personnes régulièrement
C'est-à-dire
à peu près. Combien vous venez en aide à combien de personnes à peu près le soir lorsqu'on ouais. passe
en fait,
modo.
Ouais, c'est les soirées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en dehors de l'hiver, on fait 15h30, 22h30, et là, en l'occurrence, depuis le 1er novembre, on fait 16h-23h, et on tourne aux alentours. Enfin, on rencontre à peu près entre 7 et 17 personnes, on va dire.
Ok. Vanessa ?
Et pour vous, alors, l'hiver commence à quelle date pour le 115 Début novembre Décembre.
La période hivernale commence le 1er novembre, mais sinon, nous, on travaille toute l'année.
À longueur d'année ?
À longueur d'année. C'est-à-dire, d'accord. À longueur d'année, les gens font le 115 et nous, en intérieur.
D'accord.
Ouais. Et de temps en temps, vous devez rencontrer des situations extrêmes. Quelle est l'alternative ? Enfin, l'alternative pour... sortir ces gens, leur apporter un soutien, les orienter vers peut-être des structures psychiatriques
Ouais, bah en fait, on a différentes missions en équipe de rue. Donc déjà, il y a l'écoute. Donc les gens peuvent nous appeler simplement juste pour de l'écoute. Il n'y a pas forcément que des gens à la rue. Il y a les gens dans la précarité. Donc ils peuvent avoir un domicile et être dans la précarité, quoi. Donc ça, c'est la première mission qu'on a. Ensuite, il y a l'aide matérielle, l'aide alimentaire. Et la question que vous venez de me poser sur les orientations, en fait, ça dépend des profils. Donc en fait, lorsqu'on rencontre quelqu'un, s'il faut l'orienter vers l'hôpital ou vers l'interface, CMP, enfin, XAPA... On le dit à la personne, on l'oriente. Nous, on fait qu'orienter.
Vanessa.
Et vous êtes combien alors de moniteurs
ouais, en fait, on est en équipe de rue, on est 5. Actuellement, il y a 3 éducateurs spécialisés. Et, on est même 6, pardon. Il y a 3 éducateurs spécialisés et 3 non diplômés.
D'accord. Et est-ce que c'est du bénévolat ou...
Non, on est salarié pour l'association Blancs du Pont.
D'accord.
Et pour... vous n'êtes pas... Oui, je voulais savoir, est-ce que vous êtes formé à apporter les premiers secours On ne sait jamais, des fois, trouver quelqu'un qui
est... Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on fait essentiellement du social. En fait, on n'est pas infirmier.
D'accord.
Donc, si jamais on rencontre quelqu'un dans la rue qui a des problèmes... de santé ou quoi que ce soit, en fait, on fait comme tout le monde, on fait le 15, on fait le 17, on appelle les pompiers.
Merci. Juliette, où se trouve en fait votre lieu de travail ?
Donc moi, je travaille donc à l'accueil de jour, place Lorraine, on est juste à côté de la FNAC.
D'accord.
En plein centre-ville.
Et qui peut venir ?
Bah, tout le monde. En fait, nous, c'est un accueil inconditionnel, il n'y a pas vraiment de critères. Alors à l'accueil, enfin à l'arrivée des personnes, on fait un bilan. Savoir quand même où ils en sont au niveau financier, au niveau social. Mais sinon, tout le monde peut venir en réalité. Donc après, bon, c'est déjà arrivé qu'on ait des personnes qui ne sont pas dans le besoin du tout, hein, qui viennent manger. Là, on refuse quand même parce qu'on donne une priorité aux personnes qui sont le plus dans le besoin.
Yannick ?
Et donc, ça fait longtemps que ça existe, il me semble, ce lieu, hein, le... Non, ça fait un moment. L'interface, l'arrivée de l'interface précarité, qu'est-ce que ça a apporté pour cette structure ?
C'est vrai qu'on travaille énormément ensemble. C'est vrai que c'est un soutien pour nous. Ça nous aide à déceler des problématiques que nous, on ne voit peut-être pas. Et puis, puis voilà, c'est vrai, Dorothée, elle vient souvent. Et ça permet aux gens d'intégrer une démarche de soins, souvent. Ce qui est évident.
D'où l'intérêt du mariage entre le soin et le social
tout
pour aider ces gens, je pense. On peut poser des questions à Mina, parce que voilà, là, je pense que...
Mais je crois qu'il y a Fernand qui doit poser une question.
Attends, je pose la question à Mina. Ah, Mina, c'est quelqu'un qui a travaillé, qui est assistante sociale, assistante socio-éducative, qui a travaillé longtemps en CMP, donc qui connaît très bien la pathologie psychiatrique pour y avoir travaillé avec nous. Et elle est maintenant à la précarité, et je voudrais lui poser cette question. Comment tu travailles en lien avec les structures médico-sociales de Boulogne-sur-Mer? Quelles sont tes missions?
Comme je l'avais dit en présentation, c'est vrai qu'on est là en soutien aux équipes éducatives, donc par rapport à certaines situations où justement des personnes sont orientées vers le centre hospitalier. On est là comme... on a un rôle, comme son nom l'indique, d'interface entre les établissements médico-sociaux et le centre hospitalier. On est facilitateur de l'arrivée de certaines personnes, notamment au niveau des urgences et dans certains services de soins, donc en apportant justement des informations complémentaires quant à la situation de la personne.
Et tu évalues, ça correspond à peu près à combien de personnes environ sur une année où vous avez travaillé ce lien et ramené ces personnes en difficulté vers le soin? Beaucoup?
Ah oui. Là, vous donnez un chiffre comme ça, sincèrement, je ne pourrais pas, parce que c'est un travail quotidien. C'est vrai qu'on est vraiment dans un travail de partenariat, et donner un chiffre comme ça, je pourrais pas. Non.
Fernande, petite question à qui? À Cheikh.
Ceux qui sont en dehors.
Voilà.
J'allais vous dire, c'est pas trop difficile pour vous. Vous occupez de tout le monde.
Non, bah on fait notre
Je sais pas si c'est une question
non,
à
non,
demander.
Non. Bah on nous pose souvent la question. En fait, votre question, elle est, on nous la pose souvent, parce que souvent on nous confond, par exemple, avec les pompiers ou même avec des infirmiers, parce qu'on a, bon, bah on a une veste floquée, fluo, écrit 115. Donc non, en fait, on n'a pas de difficulté à être avec les gens qui sont à la rue. Ça se passe plutôt bien.
Bien, je mets à leur place, parce que c'est pas facile pour eux de vivre dehors.
Je peux pas répondre à leur place, à ceux qui vivent dehors, mais...
Bon, peut-être ce que...
Ouais, le ressenti.
Renvoie, voilà.
Ouais, le ressenti. Ben, en fait, on essaie de pallier au mieux à leurs demandes. En général, ça se passe plutôt bien. Voilà, c'est toujours pareil. Nous, on essaie d'orienter au maximum. Donc,
Après, si je peux me permettre, ils font souvent des orientations vers le SIAO qui se trouve juste à côté du Pôle emploi.
Vous pouvez dire ce que c'est, le SIAO?
Alors, SIAO, service...
Bah, peut-être pas forcément expliquer ce que c'est.
Voilà, donc en gros, là-bas, il y a des travailleurs sociaux qui reçoivent des personnes qui sont en difficulté, qui sont à la rue, et ils les orientent vers les foyers. C'est
pas
eux
seulement.
Qui font les... Ouais. Ouais, mais c'est la plupart du temps, ils font vers les foyers. Ils peuvent financer aussi des nuitées d'hôtels. Donc nous, voilà, après, à l'accueil de jour, comme l'équipe de rue, on oriente vers le SIAO, et après, ça se fait là-bas. Après, nous, ça se peut qu'on oriente directement une personne, mais on préfère quand même qu'il passe par le SIAO, que ce soit une démarche qui vienne de là.
Et le SIAO donne des logements d'urgence aux gens qui sont expulsés. Il y a vraiment un travail de donner un logement à des familles avec des enfants qui sont à la rue. Donc
Non, mais pas...
On n'est pas le SIAO, mais en général, oui, ils essaient de faire en sorte d'aider les gens. Nous, ce qu'ils font, c'est juste ils nous les orientent via le 115. Donc on nous prévient, on nous dit, voilà, il y a une personne qui est à tel endroit, et on intervient pour...
Après, il y a plusieurs services dans le SIAO, donc il y a ceux qui orientent vers les foyers, mais il y a aussi le SAVDL, où là, ils aident les gens à retrouver un logement, et ils font les démarches avec eux. Mais la plupart du temps, s'ils rencontrent une dame qui est à la rue, c'est vrai qu'on oriente vers un foyer, donc Marquise, pour le coup. Mais il y a quelques logements d'urgence, et il y a l'Hôtel des Arts avec qui on travaille beaucoup.
Hugo ?
Oui, moi j'ai une petite question pour nos auditeurs, je pense à eux. Si un d'entre eux décide de devenir volontaire, proposer son bénévolat, est-ce qu'il peut prendre contact avec vous, ou c'est...
En fait, il faut qu'il voit directement avec notre direction.
Est-ce que vous prenez des bénévoles ? C'est ça, en fait, la question.
Je vais vous dire honnêtement, en équipe de rue, à l'heure d'aujourd'hui, on n'en a pas, parce qu'il est très difficile de... Ce qu'il faut savoir... On essaie de travailler en binôme, d'accord, voire à trois. C'est pour les gens qui sont à la rue, il est préférable d'être à deux pour pouvoir leur parler.
Ok. Voilà.
Juliette, combien de repas distribuez-vous, faites-vous pour par jour à peu près, hein, grosso modo. Ça représente quoi au niveau quantité?
Ça dépend des périodes. Là, on a une trentaine de personnes tous les midis.
D'accord. Ok.
Moi, j'ai une question par rapport à l'accueil des personnes qui doivent pas toujours être faciles dans l'état d'esprit. Comment vous faites pour gérer l'agressivité, voire la violence de certaines personnes parce qu'ils sont tellement mal qu'ils ne maîtrisent pas tout, ils ne contrôlent pas tout et ils peuvent être parfois très agressifs envers vous. Comment vous gérez ça?
Travail d'équipe.
Ouais, c'est tout. Ouais.
Vous avez été formé à ce type de... C'est une question.
Alors, oui, en école d'éducateur, on nous forme sur la violence, sur la gestion de conflits. Mais après, sur le terrain, c'est autre chose.
C'est autre chose.
C'est se protéger. Nous, sur l'accueil de jour, c'est protéger le collectif en priorité. Puis après, nous c'est en dernier.
Merci à tous. On va faire une petite pause musicale. Et après, on va reprendre cet entretien tous ensemble. Donc, pause musicale. On va écouter maintenant les Enfoirés qui vont nous interpréter les Restos du Cœur.
Je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
À tous les recalés de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage, si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste.
Toujours une place à table, une chaise, une soupe, un coin dans l'étable. Aujourd'hui nos paupières et nos portes sont closes. Les autres sont toujours, toujours en overdose.
J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir. Mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs.
C'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim. Mais ça le deviendrait si on n'y change rien.
Je t'en prends pas le grand soir, mais juste à manger.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
De retour avec les boulons pour parler de l'équipe de rue du SAMU social, continuer à parler de l'équipe de rue et du SAMU social et de l'accueil de jour avec Cheikh, Juliette et Mina.
Bonjour Elisabeth qui nous a rejoint.
Bonjour tout le monde.
Je crois que vous avez une petite question.
Oui, j'ai une question peut-être un peu plus à Juliette ou à Cheikh. Parmi les personnes que vous rencontrez, est-ce que vous constatez qu'il y a des personnes que vous ne voyez plus parce qu'elles ont la chance de réussir à s'en sortir, ou est-ce qu'au contraire, malheureusement, vous constatez peut-être une aggravation de la situation de certaines personnes ?
On en a qui s'en sortent. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que notre public, en fait, il change tout le temps. On n'a jamais les mêmes personnes. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qu'on rencontre, c'est pas forcément des locaux. Il y en a qui viennent d'ailleurs.
Ce sont des personnes qui sont sur Boulogne, de l'agglomération, peut-être pour un certain temps, qui vont partir ailleurs.
Ouais, c'est des...
Mais toujours en...
Après, si je peux. au niveau de l'accueil de jour, nous, on voit... Il y a des gens qui s'en sortent et qui viennent encore à l'accueil de jour, souvent parce qu'il y a eu un premier accueil et puis qu'il y a un lien qui se crée, on est humain, donc parfois il y a aussi des affinités avec les gens.
Tout à fait.
Il n'y a pas que le statut professionnel. On en a d'autres qui travaillent et qui nous appellent de temps en temps pour dire bonjour, et puis il y en a qu'on ne voit plus du tout parce qu'ils pensent que voilà, ils se sont réinsérés, puis revenir dans le passé, c'est pas forcément une bonne chose aussi pour eux.
Fernande, une petite question.
Bonjour Fernande, bonjour Juliette.
Bonjour Fernande.
J'aurais posé une question. Quel horaire que vous faisiez tous les jours ?
Alors là, en période hivernale, donc de novembre à mars, l'accueil de jour, on fait 8h30, 15h30. Et on ouvre le week-end aussi, et les jours fériés, pendant l'hiver. Sinon, l'été, on fait 9h, 16h, et on n'est pas ouvert ni les week-ends, ni les jours fériés.
Bon, merci.
Voilà.
Une petite question peut-être, Elisabeth ? Ou alors, nous avons Cathy.
Je crois que Cathy avait une question.
Je m'appelle Cathy, j'ai une question à poser à Cheikh. Quelle est la capacité d'accueil au plan Sipour pour les nuitées ?
En fait, là actuellement, il y a à peu près une trentaine de places. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'association Plan Sipour, il y a le CHRS. Et ensuite, il y a d'autres dispositifs. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les appartements excentrés, ALT. C'est peut-être que Juliette a le premier.
Ouais, parce que ALT, nous, ça ne parle pas.
L'ALT, c'est un accueil en logement temporaire, en fait. Il y a plusieurs critères. En fait, voilà, donc on a le foyer, on a une trentaine de places.
Le foyer Blanzy pour
le CHRS. À côté de ça, on a des appartements dans à peu près tout Boulogne. Maintenant, il y en a partout. Ou des gens qui sont passés au foyer, maintenant on les met en appartement parce qu'on pense qu'ils ont passé une étape. On pense que c'est plus adapté. Ou il y a aussi des papas qui ont des enfants, donc il faut un lieu d'accueil pour les enfants. Et puis ensuite, en général, il y a les ALT après, et là, c'est totalement différent. Il y a l'aide au logement, c'est une question financière en fait à ce niveau-là. Parce que Blanzy-Pour, il y a une participation tous les mois, les excentrés aussi, et l'ALT, ils mettent un peu plus, ils sont plus autonomes financièrement. Ils sont moins redevables à l'association, si on veut.
D'accord.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a comme une. Là, je vais employer un terme, mais il y a une procédure. Lorsqu'on rencontre quelqu'un dans la rue, qui est sans domicile fixe. Sans abri, pardon. On va l'orienter, on va l'accompagner au CHRS de Blanzy-Pour, quand il y a de la place. Une fois qu'il est installé à Blanzy-Pour, qu'il fait ses marques, qu'il s'adapte, qu'il évolue dans ses démarches administratives, et qu'on estime qu'il est autonome. Qu'il est prêt. Ouais. On passe à ce qu'on appelle les appartements excentrés.
D'accord.
Dans les appartements excentrés, il est toujours suivi par Blanzy-Pour. Jusqu'à passer en ALT, et l'ALT ensuite pour avoir son autonomie totale après les ALT pour prendre son propre appartement et voler de ses propres ailes.
On a aussi une maison en partenariat avec LPI, Littoral Prévention Initiative, anciennement Boulogne-Roguinfo sur Boulogne en fait. Mmh. Et où là on accueille donc des personnes qui consomment. Hein. Et puis on travaille le soin avec, la prise aussi de produits. Donc voilà, on essaye de
c'est un large public.
Ouais, voilà, et puis c'est pour ça on travaille énormément en partenariat, autant avec l'interface qu'avec le Carud, même dans les maraudes, hein, il y a d'autres professionnels qui tournent avec vous.
Les femmes et les hommes vont au foyer Blanzy-Pour. Il n'y a que les hommes et les femmes vont où?
Que les hommes, à Marquise, au CHRS de Marquise.
D'accord, c'est ce qu'on appelle le château, c'est ça?
Ouais, anciennement.
Et en ce qui concerne les femmes, lorsqu'on les rencontre dans la rue, nous, on agit de la même façon que pour un homme, hein, mais... ensuite, on les accompagne soit à l'Hôtel des Arts quand ils ont des nuitées à l'Hôtel des Arts, ou sinon au CHRS des Marquises.
D'accord.
Sauf l'accueil de jour, moi j'accueille aussi des femmes. Ouais.
Mm-hmm. C'est au niveau de la place Lorraine.
Ouais, ouais. D'accord. On accueille des femmes aussi.
Ça marche. Cédric ?
Oui, moi je voulais savoir, Juliette, au niveau de l'accueil de jour, justement, tu parlais de repas, hein, puisqu'il y a un repas de servi. Ce repas est payant, et donc savoir s'il est payant, déjà dans un premier temps. Et qui fournit le repas ? Est-ce que c'est des associations qui donnent ? Est-ce que c'est un coût pour l'association Blanzy ? Comment ça fonctionne ?
Alors, pour les repas, c'est 1,50€.
Ouais.
Alors, il faut savoir que les personnes peuvent payer au mois, à la semaine, à la quinzaine. Et puis, il y en a qui payent pas s'ils n'ont pas de ressources. Hein. Souvent, il y en a même qui ont des ressources et qui payent pas forcément parce qu'il y a d'autres problématiques à côté. Et puis, donc, les repas, on fonctionne par don, souvent avec Emmaüs. Mais en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, on fait des courses aux frais de l'association. Mais nous, il faut savoir que l'accueil de jour, on n'a pas forcément de subvention. Donc du coup, on fait vraiment très très peu de courses, des matières premières. Et ma collègue et moi, on cuisine. On n'a pas de cuisinier, donc c'est nous qui cuisinons tous les jours.
Ah, c'est vous qui confectionnez le repas, d'accord.
Mm-hmm. Okay. Donc c'est beaucoup, hein, je cuisine.
Non, mais... je n'en doute pas.
Sinon, on a aussi un partenariat de temps en temps avec les paniers de la mer. Qui, on leur donne les matières premières et ils nous font à manger. Mais vu que c'est un peu compliqué en ce moment... période de fête, donc en cuisine.
Les centres commerciaux ne vous donnent pas leur...
Si, mais ils passent par Emmaüs, en fait. D'accord. Et puis après, nous, on récupère, c'est distribué à plusieurs structures.
D'accord. Fernand, une petite question ?
Vous travaillez, c'est au Cap Place Lorraine, Cap Partage ?
Oui.
Oui, parce que je connais des personnes qui vont...
Bon. Ça se peut, on a du monde.
Oui, je vois, il y a du...
Après, j'avais encore une petite question pour Juliette. Quand on s'était eu au téléphone, on avait un petit peu parlé forcément de l'émission, et on était arrivé sur l'outil plus ou moins qu'était le repas, quelque part, puisque le travail, certes, j'entends, tu cuisines, mais je pense qu'il y a tout un autre travail qui est fait auprès des personnes que vous accueillez au sein du centre.
Ouais, le repas, c'est juste... c'est juste l'excuse en fait, on va dire. C'est que voilà, ils viennent pour cette prestation-là, mais autour de ça, avec ma collègue, on crée du lien avec les personnes, et puis on voit les problématiques et on propose des solutions. Après, et même grâce au repas, on arrive à voir des problématiques au niveau de l'alimentaire, au niveau de la santé. Donc c'est vrai que c'est notre outil. Donc on le fait, c'est pour ça qu'on cuisine bien, parce qu'on veut que les gens viennent et puis parce que c'est pour eux, quoi. Ouais. En général, c'est le seul repas que ces personnes se font dans la journée.
Dans la journée, hein. Ouais, tout à fait.
Ouais, ouais. La plupart du temps, ils mangent pas
ils
le soir.
Ils mangent pas forcément, ouais.
Oui, Mina ?
Je rebondis par rapport justement à ce moment des repas. Dans le cadre de l'interface, il y a ma collègue Dorothée, qui est infirmière, qui a pris la parole tout à l'heure, qui participe également à ces temps. Et c'est vrai que c'est aussi l'occasion de l'identifier, d'avoir une première approche avec les personnes et de faciliter après justement les entretiens avec ces personnes-là.
Parce qu'on mange avec les personnes. Donc du coup, c'est vrai qu'on est dans un moment très très convivial au final et on échange pas forcément sur... On a plus vraiment notre statut professionnel à ce moment-là. C'est un vrai échange.
Ouais, tout à fait. Et Mina, en effet, je te rejoins complètement dans les fonctions de Dorothée. Dorothée qui est d'ailleurs parmi nous, là, hein, qui écoute cette troisième partie d'émission. Je crois que tu interviens également, hein, Dorothée, dans l'équipe de le SAMU une fois de temps en temps. Tu y vas ou... Tu peux peut-être équipe en équipe de rue, hein, voilà, il me semble, hein, je te laisse prendre un micro pour répondre justement à la question, mais de mémoire, si je dis pas de bêtises. Hein,
Au niveau de la maraude, oui. J'interviens, oui, j'essaie voilà. d'intervenir au moins une fois par mois.
D'accord, ouais, c'est bien ce qui me semblait.
C'est un premier contact, voilà, au moins de visu, il m'identifie.
Voilà.
Souvent, on les oriente aussi vers le cap et ça me permet, moi, de les suivre au cap.
D'accord.
Et de là, d'essayer ben, d'accrocher.
D'accrocher, pour, tout à fait. Ouais. C'est sûr qu'il faut, faut qu'il y ait une confiance qui se crée pour pouvoir après, en effet, faire du boulot. Quoi.
Oui, c'est pas à pas, c'est, petit c'est... à petit.
Voilà,
et
tout
en
à fait.
Voyant que nous sommes une équipe et qu'on a tous le même objectif.
D'accord, ok.
Vanessa ?
Oui, alors c'est Vanessa. Je voulais dire, quand j'ai quitté la psychiatrie il y a quelques années, pour des problèmes familiaux, je me suis retrouvée à la rue. Je dormais au foyer Saint-Louis à l'époque. Maintenant, c'est des logements étudiants. Et donc, je mangeais au cap le midi. Donc, c'était 1 euro le repas à l'époque. Donc, je sortais du foyer à 7h30, 8h, parce qu'ils nous mettent à la rue quand même à cette bonne heure le matin. Et du coup, je faisais la manche le matin pour pouvoir avoir 1 euro, pour pouvoir payer mon repas au cap. Et c'est vrai que j'ai eu un soutien là-bas très, très amical, très humain. Voilà.
Au niveau du cap, vous ne faites pas de repas le soir ?
Non, non, non. Là, justement, si les gens ont besoin d'un repas ou de voir quelqu'un, nous, on oriente vers l'équipe de rue. On leur dit d'appeler le 115 qui délivre aussi des repas.
Donc, vous, au foyer, vous délivrez un repas plus la nuitée ?
Ouais, en fait, on va...
Oui, que ce soit plus clair.
L'équipe de rue, on va essayer de tout remettre en place. On va dire ça, le foyer, c'est une structure. Il y a l'équipe de rue et il y a la queue de jour.
D'accord.
D'accord.
Okay.
Donc là, en l'occurrence, la queue de jour, ils sont là au matin, jusqu'au début de soirée, on va dire, enfin, jusqu'à 15h, 16h, hein, c'est ça, Juliette. Et à partir de 16h, nous, on démarre. Donc, les gens font appel au 115 pour une aide, quelle qu'elle soit, en fait. Qu'elle soit, comme j'ai dit tout à l'heure, alimentaire, matériel, de l'écoute, l'accompagnement. Et donc là, en l'occurrence, si les gens ont besoin d'un repas, ils peuvent nous appeler.
D'accord. Voilà. C'est pas systématique, en fait.
En fait, toute l'année, oui. Les gens peuvent nous appeler pour un repas pour le soir.
Ok.
Et là, depuis la période hivernale, en fait, on a ouvert un dispositif de plus. C'est le dispositif hivernal. Et on a 10 places pour tous ceux qu'on rencontre à la rue toute l'année. Là, en ce moment, bah, on essaie de les sensibiliser pour les emmener sur le dispo hivernal.
La différence, c'est qu'en fait, au foyer, ils peuvent rester au CHRS, donc à Blanzypour. Ils peuvent rester toute la journée, que le dispositif hiver, c'est juste pour la nuit. Le matin, là, ils sortent. Que sinon, au foyer, c'est un hébergement, hein, c'est tout le temps.
D'accord.
Voilà.
Okay. Pour conclure, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment on fait, où on appelle pour pouvoir aider quelqu'un dans la rue ? On fait quoi ?
Le 115.
Le 115. Mmh. Et pour pouvoir se restaurer et avoir une aide aussi le midi, on va où ?
Bah, place Lorraine,
d'accord.
À l'accueil des gens.
Eh ben, merci bien à vous tous. Maintenant, nous allons écouter Amir avec la chanson On dirait.
Tu me dis de regarder la vie en couleur quand il fait noir autour de moi. Sur le dos, j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi, tu me portais à bout de bras. Non, 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 je n'ai pas toujours été sûr de moi. J'ai douté tellement de fois. Non, 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 je ne sais pas ce que je ferais sans toi. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Tu me dis que mon rêve est juste à côté, que j'ai juste à tendre la main. Tout toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. Non, 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 ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai prié tellement de fois. Non, 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 je ne sais pas ce que je ferais sans toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
De nouveau avec les boulons, pour parler de la banque alimentaire et des restos du cœur. Elisabeth, on t'écoute.
Oui, merci. Bien évidemment, les personnes démunies peuvent bénéficier d'une aide alimentaire dans différentes associations qui existent sur Boulogne. Il y a la banque alimentaire, c'est rue Nationale, je pense au secours populaire rue N-Edouin, avec une distribution Moulin-Vibert. Il y a la Croix-Rouge aussi, rue Pérochelle, qui notamment donne une aide alimentaire. Moi, je vais vous parler de l'association départementale 62C des Restos du Cœur. Donc, c'est l'association Côte d'Opale qui va de 800 au nord à Berck-le-Touquet au sud, Fauquemberg et Terouanne dans l'intérieur des terres. Ça correspond à 36 centres, dont un centre bébé qui est situé Grand Rue. On est 480 bénévoles dans l'association pour seulement 2 salariés. On a toujours besoin de bénévoles. Il n'y a pas de souci. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, elles se présentent soit dans le centre qui est près de chez eux, soit le contact, l'association à Étaples, elles seront reçues par notre responsable. Une personne ou une famille démunie est accueillie au Resto du Cœur toute l'année. La campagne d'hiver vient de débuter depuis le 20 novembre. Elle va durer 16 semaines. Pour l'hiver dernier, dans notre association départementale, elle a concerné 7146 personnes à qui on a distribué plus de 630 000 repas adultes et 2500 repas bébés. Ça correspond à 1000 tonnes de marchandises au niveau national. C'est 100 000 tonnes qui sont distribuées, c'est 40% de l'aide alimentaire qui est donnée en France. Les profils des personnes qui sont accueillies sont des profils connus relativement classique de personnes dans la détresse, mais aussi de nouveaux inscrits, plus de personnes âgées, des petites dames qui sont veuves, qui touchent à peine le minimum vieillesse, des mamans isolées, des jeunes en rupture de famille, quelques étudiants aussi. Le centre le plus important, c'est celui de Boulogne, rue Cazin. L'hiver dernier, il a accueilli plus de 1270 personnes. À Vimereux, où je suis bénévole, on est une petite équipe, on a accueilli 128 personnes. Pour la campagne d'été, on a accueilli, donc d'avril à fin octobre, plus de 3000 personnes. Les Restos du Cœur, ça n'est pas que l'aide alimentaire, c'est aussi un accueil inconditionnel, tout le monde peut pousser la porte d'un centre et venir rencontrer des bénévoles, venir prendre un petit café, un petit moment convivial. L'aide alimentaire et les différentes actions qui sont menées sont gratuites. Les personnes sont rencontrées absolument sans jugement, dans le respect de leur personne, quel que soit le parcours chaotique auquel ils ont pu être confrontés. Il y a des actions d'aide à la personne qui sont menées. Je pense par exemple au Resto Bébé. Ils peuvent rencontrer des fois des puéricultrices, des personnes professionnelles qui vont leur donner au moment peut-être des conseils pour leur bébé. À Berck, il y a un atelier de français, puisqu'il y a un CADA, donc pour les personnes demandeurs d'asile. Et puis il y a une deuxième partie à l'atelier qui est un atelier un peu de, entre guillemets, réalphabétisation. Il y a des actions santé qui sont menées dans différents centres, en partenariat avec la CEPAM ou avec Rediab, c'est le test du diabète.
Vous utilisez des termes là, vous pouvez un peu définir
Lequel, Luc?
CEDAM, etc.
La CEPAM, c'est CEPAM, la caisse, oui, primaire d'assurance maladie. D'accord. Qui vient dans les centres... dans les centres resto, puis qui vont proposer des bilans santé aux personnes. Malheureusement, tous les ans, y a des personnes à qui on détecte du diabète, des choses, des petits soucis de santé. Il y a des ateliers cuisine, il y a des ateliers tricot, randonnée, etc. On a avec nous Josiane. Josiane, tu es bénéficiaire à Vimille, où tu habites.
Oui.
Comment tu as connu les restos?
Les restos, j'ai connu par le biais de Coluche, quand il a ouvert les Restos du Cœur. Et aussi, à un moment donné, dans ma famille, on a eu besoin des Restos du Cœur. Et mon père a frappé à la porte des Restos du Cœur. Et ça nous a...
Comment il s'est passé le premier contact avec, le centre?
Très bien. Ouais. J'ai été très bien accueillie. C'est même grâce à eux que j'ai retrouvé le moral. Cela, j'ai eu beaucoup de soutien des bénévoles du Resto du Cœur de Humil. Et j'ai toujours été bien accueillie. Et même vis-à-vis des personnes que je connais au Bon Secours, parce que ça fait longtemps que j'habite là. Hein. Et je sais, il y a toujours des petits trucs, mais ça passe.
Qu'est-ce qu'elle t'apporte, l'aide alimentaire qui est fournie?
Un plus.
Si tu pouvais pas en bénéficier, ça serait vraiment très difficile.
J'aurais eu du mal à joindre...
À joindre les deux bouts.
Voilà. Ouais.
Est-ce que tu as pu bénéficier d'autres activités que l'aide,
oui,
alimentaire?
Oui, j'ai fait des activités atelier cuisine avec Richard, une fois par mois. Mm-hmm. J'ai fait un atelier au moment de la fête des grands-mères. Et c'est comme ça que j'ai pu faire un truc pour maman. Et aussi d'autres activités, aller voir un spectacle avec les Restos du Cœur. Et je trouve que c'est des gens bien, les gens du Restos du Cœur. Et il ne faut pas avoir peur quand on est dans le besoin, frapper à la porte. Et tout le monde a le droit, ça dépend les personnes, cela, mais il ne faut pas avoir peur de frapper à la porte, ils seront très bien
accueillis.
C'est
vrai que c'est franchir la porte la première fois,
c'est pas évident.
D'une association, c'est peut-être pas évident, mais on rencontre en général des bénévoles qui vont accueillir, qui vont aider, qui vont même orienter des fois les personnes, parce qu'on va détecter au moment de la conversation avec eux, on va détecter des manquements en matière de droit à la santé, en matière de logement. Il y a des référents dans les centres, il y a des référents au niveau de l'association départementale.
Tout à l'heure, tu as parlé du bilan santé, ouais. Cela. Au centre bénévole de Resto du Cœur de 8000, moi j'ai fait le test du diabète. Il y a aussi. pour aider les personnes, pour les papiers.
Voilà, ouais, tout à fait. C'est... L'aide à la personne, c'est un thème très cher au resto. On peut aussi tout simplement essayer de trouver des meubles pour des personnes qui sont en très grande difficulté.
Merci bien, merci. Merci Josiane. Merci Elisabeth.
Merci.
Tout de suite, nous allons reprendre avec nous le docteur Courtepuisse, qui va nous faire un petit résumé justement sur la précarité et nous donner peut-être quelques infos supplémentaires.
Bon, bah, moi je suis très content qu'on ait pu faire cette émission puisque ça participe de la sensibilisation de la population boulonnaise sur cette question, que ces personnes précaires soient pas les laissés pour compte de notre société, qui peuvent être accueillis. Et j'ai beaucoup apprécié qu'on puisse en parler avec la chaleur là, qu'on retrouve dans cet atelier et les sourires aussi. Je trouve que ça a été aussi un hommage au travail dur. Hein, et les participants de l'atelier ont pu questionner aussi la dureté de ce travail. Donc là, aujourd'hui, hein, voilà, on peut aussi manifester du soutien aux travailleurs sociaux et aux bénévolats. Hein, c'est important de le dire. Hein, qui participe à toutes les bonnes volontés voilà, dans ce champ-là, qui appartient pas forcément aux professionnels. Voilà, un petit clin d'œil à Stéphanie, hein, qui avait participé aux ateliers de radio et qui avait mis la première pierre à cette équipe interface avec Céline et Marie. Voilà, donc pour moi, c'est que du positif et j'espère que cette émission sera entendue.
Hein. Merci pour vos encouragements. À vous Thomas.
Ben, merci docteur Courtepuisse. Donc pour finir, on va écouter Michel pour un petit panorama des événements du Boulonnais qui sont en relation avec les œuvres caritatives. Bienvenue Michel, on t'écoute.
Bonjour tout le monde. Voilà, je vais vous présenter les animations diverses qui auront lieu à Boulogne au mois de décembre 2017, cette année, les actions humanitaires. Donc le samedi 2 et 3 décembre, il y aura à la gare maritime une exposition relative à Star Wars, une collection de jeux, jouets, maquettes, animations, films. Star Wars, c'est le 40e anniversaire, je crois. Donc l'entrée, c'est 2 euros. C'est pas très onéreux quand même. Donc le samedi 2 décembre, il y aura le traditionnel défilé de la Saint-Nicolas à Boulogne à 17h. Qui passera dans le centre-ville. Le départ, ce sera à rue Nationale. Les 2 et 3, le même jour, il y aura un festival BD avec présence d'artistes à la salle d'honneur de l'hôtel de ville de Boulogne. L'entrée est gratuite. Du 5 au 8-12, il y aura une action en solidarité en faveur du Téléthon dans le hall du centre hospitalier de Duchesne, qui est parrainé par Fred Bélanger, que l'on avait reçu ici quand il avait fait son défi de battre le record de 2800 km, il a échoué, mais enfin, il n'était pas très loin. Donc, il y aura 4 vélos home trainers qui sont dans le hall. Le défi, c'est de faire 4000 km en 36 heures. Donc, cette action débutera le mardi 5 de 12h, coup d'envoi à 20h. Le mercredi et jeudi, donc ce sera de 8h à 20h. Et le vendredi de 8h à 12h. Donc le tout animé par un DJ. Il y aura la participation de soignants, patients et sportifs accomplis. Je crois que le COP de l'ESSM sera présent pour mettre un peu d'animation. Donc ce même vendredi 8 décembre à 18h30, il y aura le départ de l'hôpital à arriver à la mairie du jogging traditionnel. Donc le jogging fait 7 km et la marche 5 km. Donc l'arrivée, ça sera à la mairie de Boulogne. Une participation de 3 euros est demandée pour faire un don au Téléthon. On peut donner plus si on veut. Donc le samedi suivant, juste le lendemain, aura lieu le deuxième Urban Trail nocturne de Boulogne. Donc c'est une course à pied qui a lieu en ville. Donc il faut avoir une lampe frontale et puis un sac de ravitaillement. Et il faut être en autosuffisance. Donc il y aura deux distances, un 13 et un 28 km. Et un 6 km... Qui partira du stade. Mais l'Urban Trail partira à 19h30 de la gare maritime. donc du 15 au 17 décembre à la vieille ville fortifiée, le marché de Noël traditionnel. J'aurais voulu préciser aussi que du 6 novembre au 22 décembre inclus, à Nausicaa, il y a un tarif promotionnel pour les habitants de Boulogne et les 22 communes de l'agglomération du Boulonnais. 8 euros au lieu de 19 euros et 6 euros pour les enfants au lieu de 12,50 euros. C'est quand même intéressant si on veut voir Nausicaa. Il faut justifier d'une carte d'identité avec l'adresse, c'est normal. Et puis le week-end avant Noël, il y aura la traditionnelle guenelle, la confection des guenelles dans la betterave. Et sur place, la place d'Alton, la patinoire.
Et puis moi, je vais ajouter juste le 9 décembre, au Chaudron, il y a la soirée girly, soirée filles, au profit du Téléthon organisé par Clémence Barbarin. C'est une soirée dédiée aux filles, donc il n'y a pas de garçons. Et c'est génial.
D'accord. Merci.
Merci à tous pour cette émission. Merci à tous les intervenants. Et maintenant, pour conclure, nous allons écouter la musique d'un SDF qui chante Creep de Radiohead à la guitare.
You all right, guys? It's great to have my ear. You're just like an angel, and you're beautiful. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here when I don't belong here? It's okay if it hurts. Don't wanna have control. I want a perfect body. I want me one of those brand new perfect soul. I said I want you to know that when I'm not around, yeah. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here when I don't belong here? I don't belong here. I don't belong here. What the fuck am I doing here? I don't belong here. Whatever makes you happy, whatever you want, you're so fucking special. Oh, I wish I was special.